Bonjour, mon cher Ray. Ça me fait plaisir de te savoir encore avec nous.
Oui, merci. Je suis content d'être là. Je suis content de vous retrouver.
Il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées dans la dernière semaine, de sorte que ça nécessite qu'on se parle. Écoute, on avait déjà abordé la question, mais là, ça semble de plus en plus réel. C'est-à-dire que pas cette saison, mais la saison prochaine, dans la Ligue nationale de hockey, on verra les premiers chandails avec des commandites?
Absolument. Ça a été annoncé cette semaine que, de sources sûres à l'intérieur du comité des gouverneurs, il y avait eu un vote, puis unanimement, les gouverneurs de la Ligue nationale de hockey avaient décidé d'aller de l'avant. Ce qui n'est pas étonnant, compte tenu des difficultés financières, les souffrances financières et économiques pour les équipes de sport, ce qui n'est pas comparable à la souffrance mondiale via la pandémie, mais les équipes n'ont pas attiré des partisans comme à l'habitude. Les revenus étaient beaucoup moindres que dans le passé. Il fallait trouver de nouvelles sources, il fallait se réinventer. L'an dernier, on est arrivé avec quelques innovations, la publicité sur les casques des joueurs, de la publicité supplémentaire dans la glace, dans les coins, un peu de virtuel. On a mis des panneaux en vinyle à l'intérieur des amphithéâtres pour donner un peu plus de valeur ajoutée aux partenaires commerciaux déjà existants. Ça compensait un peu, ça a rajouté des revenus. C'est sûr que ça n'a pas remplacé le vide créé par les billets qui n'étaient pas vendus. Et là, on annonce peut-être plus tôt que j'aurais cru là, que la publicité va arriver officiellement. Mais ça va devenir la quatrième ligue. Quand tu regardes la MLS, quand tu regardes la WNBA et surtout quand tu regardes la NBA qui ont débuté ce processus-là en 2017, puis ils ont 4 ans de fait, puis ils ont un peu d'intelligence à ce sujet-là pour partager. Puis le hockey a bien suivi, si on veut, le chemin. Ils ne voulaient jamais être les premiers, mais on savait tous qu'il allait y arriver.
Ben, j'ai posé la question à mes auditeurs hier, puis c'est très partagé. Hein. Il y a des gens que ça ne les dérange pas du tout, tandis que d'autres, pour eux autres, c'est une cicatrice sur un chandail aussi prestigieux que celui du Canadien. Il y en a même qui me disaient hier, imaginez, les Yankees de New York accepteraient jamais ça, de souiller leur maillot de commandite. Tu me dis que c'est inévitable, mais les partisans, eux autres, n'ont pas l'air prêts à ça nécessairement.
Ben, faut toujours regarder ça de deux façons. En tant que partisan, la probabilité, c'est qu'on aimerait mieux qu'il n'y ait pas de pub, bien entendu. Mais si on était des propriétaires d'équipe, c'est certain qu'on irait dans ce sens-là. Parce que c'est une business de générer des dollars, des revenus. Puis c'est difficile en 2021 de constamment réinventer ou inventer de nouvelles sources qui n'existaient même pas dans le passé. Bon, c'est sûr que la technologie contribue à créer de nouvelles opportunités. C'est certain que il y a plus de plateformes, puis on essaie d'identifier de nouvelles propriétés qui se vendent et qui se remplissent d'annonceurs prêts à soutenir financièrement une organisation, une équipe, un joueur, un athlète, peu importe. Alors, donc, oui, on préférait garder ça pur et simple et sacré, particulièrement les chandails des équipes originales, les 6 premières, mais d'un autre côté, c'est pas toutes des équipes qui baignent dans l'argent comme les Leafs ou les Rangers ou les Canadiens. Il y a des équipes qui, financièrement, souffrent d'année en année. C'est moins facile de vendre 10, 15 000 billets de saison. C'est moins facile de remplir les loges. Le prix moyen des billets n'est pas le même. Les droits télé locaux ne sont pas les mêmes de ce que paie RDS, par exemple, pour les Canadiens au Québec. Tu sais, alors, il y a bien des facteurs. C'est pas égal, le terrain de jeu. Sur la glace, 6 contre 6. Plafond salarial pour tout le monde. Mais derrière ça se cache une business, puis tu n'as pas toujours les mêmes ressources, tu n'as pas toujours non plus le même potentiel de marché. Donc, quand on crée quelque chose comme ça, on pense aussi à ceux qui ont désespérément besoin là, de nouvelles sources de revenus publicitaires. Puis s'il y a des annonceurs qui sont prêts à payer, et dans certaines villes, ça peut être des millions de dollars par année, plusieurs millions, dans d'autres, ça va être moins. Mais à la fin, la recette utilisée par la NBA, d'y aller avec un partenaire pour chaque équipe, selon la communauté, la région, l'entreprise la plus près. Harley-Davidson à Milwaukee avec les Bucks, StubHub avec les Sixers à Philadelphie, Goodyear avec les Cavaliers à Cleveland parce qu'ils sont dans l'Ohio. Bon, il y a toutes sortes de raisons comme ça qui se sont faites naturellement. Bon, peut-être que pour les Canadiens, ça sera une entreprise canadienne, locale, québécoise, même peut-être investissant déjà dans l'équipe. Mais une chose qui est claire, faut regarder ça avec un peu de recul. Et il faut comprendre que quand on est propriétaire, on essaie toujours d'aller chercher plus d'argent parce qu'on veut s'enrichir, oui, mais on veut aussi gagner puis on veut aussi investir dans l'équipe.
C'est un carré de 3 pouces environ. C'est pas très, très gros. Est-ce que la visibilité pour l'annonceur vaut la peine, le montant que ça coûte pour s'afficher sur un chandail de la Ligue nationale de hockey?
Ça, c'est une excellente question parce que c'est ça qu'ils essaient de définir actuellement. C'est quoi la vraie valeur? C'est quoi le retour sur l'investissement? Tu sais, un chandail de hockey sur un close-up, si tu me permets l'expression, lors d'un match de hockey, là, c'est à peu près 12 à 15 minutes par match qu'on est très près à la télé du chandail puis du joueur pour la mise au jeu au bord du banc puis ainsi de suite. Bon. Quand tu es dans les gradins, on voit pas très bien ce qui est sur l'épaule ou la poitrine du joueur parce qu'on est loin. Dans la NBA, le terrain est plus petit, plus compact, les fans sont plus près, on voit un peu mieux, mais encore là, tu sais, il y a beaucoup de trafic puis de congestion. C'est ça que les partenaires doivent essayer de mesurer un peu qu'est-ce que ça vaut vraiment. Puis c'est quoi le retour? Qu'est-ce qu'on va être capable d'obtenir? Puis est-ce que ça va nous donner le prestige puis le rayonnement recherché? Parce qu'à la fin, c'est pas des entreprises de charité. Là. Ils donnent pas l'argent pour le plaisir. Ils veulent un retour. T'sais, que ce soit une compagnie québécoise qui s'affiche sur le chandail des Canadiens, c'est parce qu'à quelque part, ils veulent profiter des Canadiens. Ils veulent profiter de chaque image, chaque photo, chaque vidéo en action. En principe, tu pourrais potentiellement être vu. Ça vaut quelque chose. Quand tu es sur le chandail que porte un Carey Price ou dans la NBA, un Steph Curry avec les Warriors, ça vaut quelque chose ça aussi parce qu'ils sont photographiés des milliers de fois par match. Alors, c'est là que l'entreprise doit juger si ça va en valoir le coup. Puis c'est puisque c'est la première fois au hockey de façon officielle dans la Ligue nationale en 2022-23, on va être en mesure de regarder un peu le résultat. Puis dans la NBA, je te dirais là, qu'après 4 ans, sur 30 équipes, après les 3 premières années de contrat, il y en a 11 qui ont changé de partenaire pour la 4e année pour relancer à nouveau. Tu sais, c'est un tiers qui se sont dit soit on n'est pas satisfait, soit on n'a pas eu le retour qu'on voulait, soit qu'on a jugé que ça coûtait trop cher, ou soit que l'équipe a dit non, on est capable de faire mieux, on va aller chercher un plus gros commanditaire puis on va aller chercher plus d'argent.
Dis-moi, on a déjà vu au UFC Georges St-Pierre avoir des problèmes parce que son commanditaire personnel n'était pas le même que le UFC. Je lançais comme exemple hier, j'ai déjà vu Carey Price faire l'annonce d'un concessionnaire Ford. Si jamais le Canadien devient commandité par Chevrolet, par exemple, est-ce que ça peut causer des frictions?
Ça, c'est sûr que ça va arriver. Puis tu l'as bien décrit. Prends Carey Price avec Ford, justement. Prends LeBron James qui est avec... Nike, par exemple, prend Steph Curry, qui lui a fait une relation avec Rakuten, qui a aussi la relation avec les Warriors. Dans ce cas-là, ça a été bénéfique aux deux. Mais c'est certain que tu vas avoir des situations où un joueur a son propre partenaire, mais doit porter un uniforme avec un logo d'un compétiteur. Je te donne un autre exemple. James Harden, dans la NBA, qui joue pour les Nets de Brooklyn, porte des chaussures Adidas. Son chandail des Nets a un logo Nike. Parce que Nike a acheté les droits, la licence, pour produire les 30 chandails des équipes. Donc ça, c'est un logo qui ne bougera pas. Pendant ce temps-là, le joueur porte des Adidas. Pendant ce temps-là, le joueur, chaque fois qu'il est pris en photo, le logo Nike vient avec. Fait qu'en quelque sorte, un commanditaire, lorsqu'il achète une équipe au complet avec une publicité sur le chandail, ben, il vient de s'approprier les 25 joueurs de hockey d'une équipe.
Ben oui.
Même si, parmi ceux-là, un joueur est avec un partenaire opposant au compétiteur. Fait que tu comprends qu'il y a une stratégie là-dedans de mise en marché. Puis d'un autre côté, ça peut coûter moins cher des fois d'avoir juste le club au complet que de se payer une entente lucrative, très coûteuse, avec une star comme LeBron James ou Steph Curry ou Kawhi Leonard ou ainsi de suite dans l'NBA. Fait que si tu prends le club au complet, tu vas hériter indirectement de chaque image prise avec ces joueurs-là dans leur uniforme de match, ça va être avec le logo de ton entreprise. Ça, encore une fois, ça vaut quelque chose. Fait que ça fait partie du calcul puis de la réflexion stratégique que les entreprises doivent faire. Il y a une chose qui est claire, c'est beaucoup de dollars de plus. La NBA là, a généré en moyenne 150 millions au total par année au cours des 4 premières années. Fait que ça fait en moyenne 5 millions par équipe. C'est une bonne chose. La Ligue nationale de hockey, probablement que ça va être un peu moins. Mais tu parlais des Yankees tout à l'heure. Ils ont joué deux matchs à Londres l'an dernier, en 2020, je crois, ou 2019, contre les Red Sox de Boston dans une mini-série exhibition. Puis il y avait des logos de commanditaires sur les casques et les chandails. Fait que ça va arriver au baseball aussi. et dans la NFL aussi. C'est juste que le prix va varier selon les occasions, puis selon le prestige, puis la pertinence de la Ligue. La NFL, imagine, avec les audiences télé, ça va coûter forcément plus cher que la Ligue nationale de hockey.
Et la question maintenant pour les fans qui achètent des chandails, est-ce que tu crois que les chandails qui sont vendus en boutique, qui sont vendus en ligne, vont avoir le commanditaire de l'équipe aussi, comme on voit au soccer, par exemple?
Je pense que ça va rester à être défini. Puis la NBA a traversé ce chemin-là déjà. Tu sais, tu as des chandails qui sont vendus en amphithéâtre, littéralement en boutique, lors d'un match. Tu en as qui sont vendus en ligne sur le site du club. Tu en as qui sont vendus en ligne sur le site de la Ligue, par exemple, ou d'un fournisseur le plus important aujourd'hui qui est Fanatics aux États-Unis, qui a des droits et des licences avec toutes les ligues majeures. T'en as qui sont vendus dans d'autres villes, forcément. Dans une boutique ailleurs, à Los Angeles, tu peux trouver peut-être un chandail des Canadiens. Fait que la question, c'est si t'as un partenaire local, je te donne un exemple, là, Bell. T'sais, Bell, là, ça n'a aucun rapport avec la Californie. Alors, est-ce que le gars en Californie qui est fan des Canadiens veut un logo de Bell sur le chandail ou non?
Non.
Fait que ça fait partie des petites configurations qui vont être nécessaires pour la Ligue nationale, dépendant de ce que va prendre l'allure de cet investissement-là. Je te donne un autre exemple. Mettons qu'un commanditaire décidait que Gary Bettman, je prends tes 32 équipes d'un seul coup, Seattle et Vegas compris, voici ce que je t'offre. Puis Bettman trouve l'offre alléchante en moyenne. Mettons qu'il disait à quelqu'un 200 millions pour la Ligue au complet. Ça serait une moyenne peut-être moins que ce que Toronto ferait ou Rangers, ou Canadiens, mais beaucoup plus que les Panthers, les Stars, les Blue Jackets feraient. Fait que là, Bettman serait pris dans une situation, est-ce que ce commanditaire-là, mondial, a sa place dans la Ligue nationale de hockey comme commanditaire national, donc sur le chandail de chaque équipe. Donc, partout où on trouverait un chandail. Finalement, il y a beaucoup de permutations possibles. Et la question, ça va être, comment Bettman peut aider les équipes à générer le maximum d'argent sans être pénalisé à cause de certaines équipes plus faibles. Et en même temps, comment trouver la meilleure formule avec les commanditaires et comment ensuite utiliser ces chandails-là dans le monde entier avec ou sans logo publicitaire. Est-ce que ça a un effet négatif ou positif pour un partisan? Est-ce que le partisan veut le chandail officiel tel qu'il est porté dans un match, donc avec un logo publicitaire ou non? Ça, c'est toutes des questions que Bettman va devoir identifier les réponses.
Restons dans le domaine publicitaire parce que mon collègue Hugo qui est avec moi cette semaine m'a amené ça en début de semaine dans notre chronique des médias sociaux. La publicité que Maxi a fait avec Félix Auger-Aliassime. Hugo, parle-moi-en un peu pour les auditeurs qui l'auraient peut-être manqué.
Ouais, ben c'était un partenariat, une collaboration entre Maxi et Félix Auger-Aliassime avec le slogan de Maxi qui est toujours imbattable. On a voulu faire une collaboration avec un sportif québécois bien connu qui est Félix Auger-Aliassime en disant ben, « Nous, chez Maxi, on est imbattable, donc on s'associe avec des athlètes imbattables. » Et ils l'ont largué lorsqu'il a perdu du côté de Toronto.
Ray, comment tu trouves ça? Moi, j'ai jamais vu ça, là. C'est spécial, là.
C'est spécial, j'ai jamais vu, j'ai trouvé ça cool, honnêtement. J'ai trouvé, si Félix se prêtait à l'exercice puis était content de bâtir une relation, à la fin, là, ça c'est ce qu'on appelle le front, là, mais il y a une relation d'affaires qui s'est mise en place avec Maxi pour lui, c'est très bon. C'est important que les entreprises québécoises et canadiennes continuent à soutenir les athlètes canadiens et québécois. Si on en parle souvent, il faut le mentionner à chaque fois. Il faut qu'il s'étire le bras, il faut qu'il aille dans le compte bancaire puis qu'il signe des chèques pour endosser puis commanditer ces athlètes-là, des Olympiens qui sortent de Tokyo jusqu'à des joueurs de tennis comme Félix. Bon, alors, ils l'ont fait, c'était cool puis original. Et ça fait parler, ça c'est important parce qu'il y avait un élément là-dedans intriguant puis à la fin, ça s'est terminé rapidement pour lui. Ça n'a pas été un succès, là, la tournée, d'été, là, US Open Series pour Shapovalov ou Félix Auger-Aliassime. Les deux ont perdu assez rapidement dans les deux tournois. C'est dommage, mais une chose qui est claire, c'est que ils sont jeunes, ils continuent leur ascension, leur image est très cool, très propre, très professionnelle, puis les entreprises qui prennent des risques avec eux ne seront pas déçues.
Mais Ray,
bien aimé ce que j'ai vu.
Mais j'ai aimé ça aussi. J'ai trouvé ça sympathique. Puis on s'entend que l'entourage et Félix Auger-Aliassime étaient d'accord avec ça. Ils l'ont endossé, le concept. Mais si tu avais eu à le conseiller, est-ce que tu aurais pris cette décision-là de pouvoir le présenter peut-être rapidement comme quelqu'un qui perd?
Oui, je l'aurais conseillé parce que je pense que la relation avec Maxi est plus importante à long terme. Okay. Je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'ils vont travailler ensemble. Puis je pense aussi que, tu sais, à la fin, on en parle. Ça a été court, ça a été vite. trop vite, mais c'était un peu la gimmick dans l'histoire. Et à la fin, c'était positif. Alors, les gens vont percevoir Félix comme étant un jeune homme qui peut bien représenter une marque, qui peut avoir un sens de l'humour, un élément humain. Et Maxi a bien joué. Il y avait Martin Matt dans l'équation. C'était très positif, honnêtement. Faut pas toujours se dire, regarde, faut maximiser. Maximiser, c'est un jeu de mots, là, mais exploiter au bout, là. Parfois, faut aller avec des occasions qui sont ponctuelles et de se bâtir une crédibilité, une feuille de route, puis des bonnes relations, puis des bons partenariats. Puis je pense que c'est ça qui va être le résultat de cette relation-là.
Et dernière petite chose, Ray, dans le hockey, on l'a vu, les premières fois, ça a été très couru, les matchs extérieurs de la Ligue nationale de hockey. Au tennis, il y a des endroits insolites qui ont été exploités également pour des matchs. Au baseball, bon, c'est déjà à l'extérieur, il faut des infrastructures, un stade, mais comment tu trouvais le Field of Dreams qui a été présenté dans un champ de maïs pour faire un clin d'œil au film avec Kevin Costner?
Spectaculaire. A+. 100%. Honnêtement, là, hey, le baseball, là, s'il y a un sport qui a besoin de s'activer, puis de se rajeunir, puis de moderniser son look, son feel, réduire la longueur des matchs, puis augmenter un petit peu l'intensité. Tu sais, je regardais encore un match de soccer hier soir, 0-0. Tu sais, des matchs de baseball qui durent 3h10, 3h15. Non. Quand tu arrives avec un événement comme ça, tu ajoutes instantanément de la valeur. Une expérience. Tu ajoutes tout de suite une émotion, une passion. Écoute, je voyais sortir Kevin Costner. Là. Moi, j'ai regardé les deux heures d'avant-match, là, les yeux rivés à l'écran. Puis j'avais comme de l'émotion, là. Ça me pognait. Là. Je regardais ça, les joueurs sortir avec leur téléphone. Ils voulaient saisir le moment eux-mêmes. Non, mais ça, là, ça, c'est... Mets ça tout de suite sur le tableau, puis c'est comme ça qu'il faut tenter de répliquer nos occasions à l'avenir. Pas simple, pas facile. Bon, ils ont annoncé l'an prochain... Reds contre Cubs, évidemment, ce sont des équipes qui ont plus de 100 ans. Il reste les Cards, il reste les Dodgers, des équipes de haut niveau comme ça. Fait que ça ne pourra pas durer 20 ans, non, là, ça, Field of Dreams. Mais ça a été un succès foudroyant. Les gens ont apprécié. Ça a donné un boost d'énergie au baseball qui en a besoin parce que c'est un sport qui vieillit difficilement. Mais il faut améliorer, puis j'applaudis le geste de Manfred. Je l'ai souvent critiqué dans le passé pour avoir été, mettons, endormi là, dans le dossier des Astros, puis le scandale de tricherie, puis dans d'autres situations de marketing. Mais ça, là, il faut lui donner une main d'applaudissement. Ça a été un gros succès. Les Yankees et les White Sox étaient endiablés, étaient émotifs, étaient contents de participer à ce privilège-là. Non, mais vraiment, là, c'était une scène d'un film qui sortait d'un film. C'était du bonbon pour les yeux. Puis en plus, le match, si tu regardes la 9e manche, oui. Yankees, 2 coups de circuit en 9e pour prendre l'avance. Les White Sox finissent avec un coup de circuit pour régler le match en fin de 9e. Tu ne peux pas avoir un meilleur scénario.
Mais si je te comprends bien, tout comme au hockey, c'est un concept qui pourrait s'user quand même rapidement.
Bien, tu sais, le concept de la classique hivernale, tu sais, il y en a des stades, comme tu sais, ça fait le tour, ça continue. C'est toujours cool de voir ça dans un gros stade. C'est pas naturel, par exemple. Le concept de Lake Tahoe,
ah, ça, c'était
malgré
bon.
Le soleil, là, oui. Ça, par exemple, c'est beaucoup plus près de l'idée d'aller jouer dehors, d'aller dans le champ, d'aller frapper des flies ou d'aller patiner sur une glace, sur un lac, sur un petit ruisseau. T'sais, c'est ça là, qui ramène... Parce que tous les joueurs de baseball ont joué dans le champ d'école, dans le cours, sur un terrain quelque part, dans un champ de vaches, frapper des flies puis aller courir les balles puis se créer des buts puis courir autour des buts. Ils ont tous passé par là. Fait que c'est ça là, qui touche. C'est pour ça que les joueurs sont intimement touchés par ça. Puis au hockey, même chose. Ils ont tous joué dehors quand il faisait très froid ou il faisait très chaud, avec une tuque. Puis, tu sais, on patine, puis on joue toute la journée, puis on sort de là, puis on joue tout rouge parce qu'on a fait 4 heures de glace. C'est ça le principe. Alors, la Ligue nationale de hockey doit continuer de chercher des nouvelles façons de présenter son produit. Le baseball aussi. Ça rejoint les gens. Surtout, ça va cultiver de l'intérêt chez les non-partisans, chez les non-endurcis. C'est ceux-là qu'on doit aller chercher à l'occasion pour augmenter le rayonnement. Parce que les fanatiques sont déjà au rendez-vous pour le baseball ou hockey. Mais on doit continuer d'augmenter la masse qui suit le sport et qui consomme davantage.
Ray, merci beaucoup.
Fait plaisir, messieurs. Bonne journée.
À la prochaine.